et bienvenue à La Révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé de l'importance de la laïcité par rapport aux droits des femmes. Donc, la laïcité, une valeur sans laquelle l'émancipation ne serait pas permise aux femmes, puisque la laïcité prévient tout ordre autoritaire qui se voudrait sacré, et que cette émancipation laïque va de pair avec l'égalité devant la loi. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'universalisme, et donc je vais profiter du fait que j'ai rencontré Geneviève Courreau, qui était présidente de l'Assemblée des femmes jusqu'au mois dernier, et qui a fait une intervention auprès des Vœux de Femmes Solidaires, une intervention sur les droits des femmes face aux extrémismes religieux et politiques. Quelques mots sur l'Assemblée des femmes. Donc, l'Assemblée des femmes a une vision universaliste et mondiale du féminisme qui ne s'arrête pas aux portes de l'Hexagone. Elle a été créée en 1992 par Yvette Roudy afin de mettre en place la parité en politique. Elle a accompagné la réforme constitutionnelle de 1999, puis les lois sur la parité en 2001. Ensuite, l'égalité et l'accompagnement des femmes en politique étaient donc son activité principale. Le colloque sur les droits des femmes face aux extrémismes religieux et politiques avait été organisé en octobre 2017. Il y avait eu aussi la représentation de la pièce de Charb, « Lettre aux escrocs de l'islamophobie », qui avait été jouée sous grande protection policière. Et elle nous a expliqué que l'organisation a été très compliquée et qu'elle avait compris à ce moment-là que la position universaliste et laïque était rejetée par une grande frange de la société et qui était plutôt revendicative. Je vais vous laisser maintenant écouter donc son intervention.
Je suis très contente donc de parler ici de la question des droits des femmes face aux extrémismes et je vous félicite de la poser essentiellement à cause de ce qui se profile à l'horizon et qui est la question des élections européennes dont je pense, au vu de ce qu'on voit arriver du terrain, que ça va être extrêmement dur et qu'on va avoir droit à des campagnes extrêmement difficiles pour nous et pour nos engagements féministes. Donc, le sujet extrémisme religieux et politique et leurs conséquences pour les droits des femmes, puisque c'est là-dessus que vous m'avez interrogée là-dessus parce que notre association a fait un colloque en 2017 à La Rochelle sur ce sujet très précisément et que cette plaquette-là qui m'a servi de fil conducteur et puisque beaucoup d'entre vous l'avez, vous savez de quoi je veux parler. Donc nous avons à nouveau abordé ce même sujet cette année en octobre lors de notre dernière conférence dédiée aux droits des femmes qui avait pour sujet les nouveaux enjeux de la condition sociale des femmes et qui se terminait par une table ronde qui était consacrée au droit à l'avortement en Europe et table ronde qui s'est elle-même terminée par un appel qui a été lancé à tous les partis politiques pour qu'ils inscrivent dans leur programme politique des européennes le droit à l'avortement pour toutes les femmes en Europe. Donc on a fait toute une campagne là-dessus qu'on a envoyée à la presse, zéro retour, et qu'on a envoyée aux différents partis politiques. Et ben, sans surprise, les partis qui nous ont répondu, qui nous ont dit que c'était déjà ou qu'ils allaient le mettre dans leur programme, c'est les partis que nous connaissons bien et qui sont des partis de gauche. Mais il y a aussi des partis du centre qui se sont engagés tout à fait fermement là-dessus. Donc quand on a voulu faire cette conférence sur les droits des femmes face aux extrémismes politiques et religieux, nous on était très enthousiastes là-dessus. Et ben, ça a été une catastrophe de mettre en place cette organisation. Voilà comment on fonctionne. On a d'abord pour commencer ce qu'on appelle une séance introductive dans laquelle interviennent des personnes qui sont souvent des universitaires et qui cadrent les deux jours que nous allons passer. Elles donnent des éléments, souvent des éléments chiffrés, des éléments de réflexion, des éléments qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, etc. Et bien sur ce sujet des extrémismes politiques, alors bon, ma lettre, elle était polie, je suis toujours très polie, surtout par courrier. Il y avait quoi? Il y avait politique et religieux, extrémisme politique et religieux, il y avait droit des femmes et féminisme, il y avait laïcité, Je l'ai envoyé, j'ai eu 27 réponses négatives. D'accord ? Et j'ai même eu une politologue célèbre, connue, qui venait de sortir un livre et qui m'a fait traîner trois mois, en me disant peut-être oui, peut-être que non, je vais voir, etc. Le 15 août, pour le 25 août, je n'avais pas d'intervenant.
Ce qui montre l'ampleur des...
Donc, ce que j'ai compris au travers de cette organisation que je vous ai racontée, c'est combien la position qui est la nôtre et qui jusqu'à présent nous paraissait, mais alors vraiment une position, mais même pas ni révolutionnaire ni rien du tout. Nous, on pensait que c'était quasiment une position normale que tout le monde partageait, était aujourd'hui une position absolument rejetée par toute une frange de la société, et une frange de la société qu'on entend, qui s'exprime et qui est revendicative et qui est à la fois dans les partis politiques de gauche, mais aussi qui est dans les syndicats et qui est dans des mouvements comme ATTAC, etc., des mouvements dont moi je pensais qu'on avait un corpus d'idées qui est commun. Ça nous a quand même fichu un sale coup, ce truc-là. Hein. Et on s'est dit, et d'ailleurs ça s'exprime énormément dans les propos de la salle dans le colloque, on s'est dit, là, franchement, il faut qu'on fasse quelque chose sur cette histoire des droits des femmes et des extrémismes, et qu'on soit plus vigoureuse là-dessus. Alors, dans l'intitulé même du titre, les extrémismes, c'est un peu compliqué parce que le mot extrême, il n'est pas très clair. Ça peut être, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, ça peut être extrême droite, ça peut être aussi extrême gauche. Et bon, nous, on a tendance à penser que l'extrême gauche, c'est pas ce qui lui arrive d'avoir ces postures comme ça anti-laïque, quoique, on en trouve aussi. Et c'est vrai que c'est les extrêmes droites, et c'est là-dessus que de ça que je vais parler essentiellement, qui nous font très peur. Donc c'est ces forces de droite qui sont conservatrices, qui sont marquées par le souci de maintenir la domination masculine, le patriarcat, et qui sont liées, dans beaucoup de pays, au capitalisme dominant. Donc, et pour nous, les extrémismes religieux, c'est la même chose. C'est une forme d'extrémisme politique. Donc ces extrémismes, quand je dis extrémisme religieux, je pense aux trois grandes religions, les trois grandes religions monothéisme, un peu, je l'avoue, parce que je ne connais pas bien les autres, et puis surtout parce que ce sont elles qui s'expriment, et ce sont elles dont on entend les diktats partout. Moi, je les inclus dans le politique, et pourquoi? Parce que leur objectif, il est avant tout politique. Ils se revendiquent comme ne s'intéressant qu'au spirituel. Mais comme on peut le voir partout dans le monde, en Iran, au Brésil, en Afghanistan, en Pologne, le politique les concerne au premier chef. C'est-à-dire qu'ils sont partout dans les instances de décision. Jair Bolsonaro, il a gagné les élections avec les évangélistes. Oui. C'est clair. Moi, j'ai des petits-enfants qui sont franco-brésiliens, donc c'est vrai que j'ai un contact très, je dirais, hebdomadaire avec ce qui se passe au Brésil. Et c'est la campagne Lenao, c'est une campagne, lui, pas du tout. C'est une campagne qu'on a soutenue à l'Assemblée des femmes et dans les mouvements féministes. Mais il y avait de quoi. C'est horrible ce qu'il prône. Et donc, l'Église évangéliste a vraiment... mis en coupe réglée les grandes villes en particulier. Donc, ce qu'ils veulent régler, les religieux, c'est la vie des gens. Sans doute, ils s'intéressent à la mort, mais parfois, je me demande si ça les intéresse beaucoup, la vie après la mort. Et ce qu'ils veulent régler, c'est la vie de la cité. Et par quoi ça commence de régler la vie des gens? C'est par les femmes. Donc les trois religions reposent sur la perpétuation de la domination masculine et la soumission des femmes à cet ordre établi, sur la supériorité supposée masculine. Ça ne veut pas dire du tout que tous les croyants participent de cette idéologie-là. Et vous en connaissez, nous en connaissons, vous en êtes peut-être, qui ont une foi, qui appartiennent à une de ces trois religions, qui ne sont pas du tout dans ces dispositions d'esprit, ni dans ces croyances, ni rien du tout, qui sont extrêmement tolérants, respectueux des femmes. Bien sûr que c'est vrai ça. Moi, je parle des hiérarchies. Et ces hiérarchies sont des hiérarchies de bataille. Et on l'a bien vu, par exemple, sur la question des violences faites aux enfants, comment est-ce que ça s'appelle là, de la pédophilie dans l'église, on a bien vu comment ça a été géré d'en haut et ça trappe. Sur ce sujet-là, il y a un livre qu'il faut lire, c'est le livre qui s'appelle « Le déni », que vous connaissez peut-être, qui est d'Agnès de Préville et Sabine Sauré, qui est signé d'ailleurs avec des pseudonymes, et qui est un livre absolument formidable sur comment l'Église a viré les femmes de sa hiérarchie, comment l'Église s'est construite en maintenant les femmes en dehors de toute hiérarchie, en leur interdisant l'accès à tout poste de responsabilité. C'est magnifique et elles sont vachement intéressantes à entendre toutes les deux. Tout ça, c'est ça. Pour moi, le rôle et pourquoi les églises ne veulent pas que les femmes soient à égalité avec les hommes au sein de leurs organisations. Et vous auriez aussi sans doute des tas d'exemples à me donner. Bien sûr que vous avez des gens comme la rabbine Delphine Horviller, qui est formidable, que j'ai entendu à plusieurs reprises, que je ne connais pas personnellement, mais ben justement, Agnès de Préville, Sabine Sauré, travaillent en inter-religion monothéiste et aussi avec une femme musulmane dont je ne sais plus le nom, qui est universitaire. Et c'est des femmes, hein. C'est des femmes qui sont là et qui réfléchissent sur leur place au sein des religions dans lesquelles elles se reconnaissent. Mais ça veut dire, ce que je suis en train de dire, c'est que les églises, elles organisent, elles co-organisent cette domination des hommes sur les femmes en alliance avec les politiques. Ils sont ensemble, ils s'entendent, c'est même pas la peine de signer un contrat, ils sont d'accord sur tout. Et ils sont d'accord pour que les femmes ne soient pas dedans. Vous savez, quand on a commencé en politique avant les lois sur la parité, c'était pas triste, hein, surtout dans les pays, dans les partis qui n'étaient pas trop paritaires. Ben, en gros, les partis qui étaient paritaires, on va le dire clairement, il y avait le PC, parce qu'il y avait des femmes qui y étaient de toujours, depuis la guerre, et il y a Europe Écologie Les Verts, qui s'est construit sur une place très forte des femmes, même plus importante des femmes, dans l'organisation du mouvement que les autres. Les autres partis, c'est une catastrophe.
Et dans les syndicats, il fallait s'arracher. Hein. J'en ai vécu, et encore maintenant.
Non, mais vous avez complètement raison. Ben, c'est la déclinaison de la même chose. C'est la déclinaison de la même chose. Donc, y a une alliance objective partout dans le monde pour bloquer les droits des femmes et s'opposer à la laïcité. Et la laïcité, je vais vite, on avait consacré une conférence, mais les actes sont épuisés, sur droits des femmes et laïcité. Parce que si vous voulez, quand on prend la loi sur la laïcité, qui est exceptionnelle en France, il n'y a pas d'équivalent nulle part. Quand on la prend, que vous commencez à la lire, vous vous dites, oh là là, j'ai trouvé plein de choses. Il n'y a que dalle sur les femmes, il y a juste l'interdit du voile. C'est un peu embêtant qu'il y ait juste un truc négatif sur les femmes. Et pourtant, c'est cette loi, dans le fait qu'elle bride le pouvoir spirituel, le pouvoir religieux, c'est cette loi qui garantit les droits des femmes absolument. Et donc, s'il y a des gens en France qui doivent se battre pour la laïcité, c'est bien les femmes en premier, si elles ont un peu compris où elles veulent être et surtout où elles veulent que leurs filles et leurs petites filles soient, parce que ça, d'après moi, c'est pas du tout gagné. Donc, pour aller vite, quel est le premier des marqueurs de la domination, masculine et des extrémismes? C'est très clair, c'est le droit à l'avortement ou pas. Le droit à l'avortement, les droits sexuels et reproductifs. Là où vous l'avez, vous pouvez dire que dans ce pays-là, alors, il y a soit quelque chose qui est reconnu et qui est les droits des femmes sont reconnus et à ce moment-là, on peut parler égalité. Là où vous ne l'avez pas et où c'est interdit, alors là, c'est très, très inquiétant. C'est vraiment un marqueur qu'il faut avoir présent à l'esprit. Alors, en cela, et pour nous, les religions ne peuvent qu'être partie prenante des extrémismes religieux et hélas, l'actualité nous donne raison tous les jours. Petit panorama rapide international. Les États-Unis de Trump. Quelle est la première chose que Trump a faite? C'est le Global Gag Rule, qui n'est pas un gag, mais qui est la règle du bâillon, par lequel il supprime les subventions, qui sont les subventions qui vont aux associations qui travaillent autour des droits sexuels et reproductifs et autour de l'avortement. Alors, je cherche mon texte. Voilà. Il a, de fait, supprimé le financement de 600 millions de dollars aux associations, étrangères ou non, qui mènent des actions de planification familiale. Et on estime que chaque année, si cette décision n'était pas contrecarrée, or elle ne l'a pas été, elle entraînerait plus de 20 000 décès maternels, 4,8 millions de grossesses non désirées et 1,7 million d'avortements clandestins supplémentaires. Et ça, quand on parle de cette Global Gag Rule qui a été, dont les sommes ont été supprimées, non seulement elles ont été supprimées pour les États-Unis, mais elles ont été supprimées à toutes les ONG qui travaillent dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Amérique du Sud, au Proche-Orient, etc. Nous, en Afghanistan, on avait un soutien formidable des femmes démocrates. Et donc, elles apportaient beaucoup d'argent parce qu'elles elles ont l'habitude de ces collectes importantes. C'est, une fois que ça a été fini, c'est fini, hein, c'est terminé. Et une fois que vous avez arrêter de donner de l'argent, à ce moment-là disparaissent tous les centres et toutes les organisations qui ont été mises en place pour faire ce travail-là. Donc, les États-Unis de Trump. Aujourd'hui, c'est le Brésil de Bolsonaro. Vous avez vu quelles sont les premières décisions qui ont été prises contre l'avortement, contre les homosexuels, et jusqu'à l'histoire des habits des petits garçons et des petites filles, et cette espèce de truc complètement taré sur la soi-disant de théorie du genre qui est... Alors, quand même, se rappeler que... vous savez ce que c'est, il n'y a jamais eu de théorie du genre, il y a des études de genre mais qui existent depuis l'antèbre. C'est Yvette Roudy qui a mis ça en place, ouais. Quand elle était ministre, enfin, elle va avoir 90 ans là maintenant, ça fait un brave moment, donc c'est des choses dont on parle depuis toujours, cette affaire là et ça n'a été monté en exergue que tout à fait récemment. Ça vient du Vatican, c'est les cellules du Vatican qui ont monté et ça vous le trouvez dans le déni, qui ont monté toute une opération, qui est une opération de discréditation, de jeter sur les gens qui travaillent sur les gens et qui ont exagéré et complètement détourné le contenu. Donc, le Brésil de Bolsonaro, d'abord, il a gagné là-dessus, c'est évident. Et puis, d'autre part, je ne sais pas comment les choses vont se passer. L'avortement n'est pas du tout autorisé au Brésil déjà. Les femmes, elles ont énormément de difficultés pour tout. C'est-à-dire les femmes, pas toutes, celles qui ont du fric, comment elles font ? Elles se débrouillent. Voilà. Celles qui n'en ont pas, c'est elles qui sont les mères des enfants des rues abandonnés, comme au Maroc, où vous avez tous ces petits-enfants qui traînent dans les rues et qui n'ont pas de nom, d'ailleurs, puisqu'ils sont interdits de nomination, et qui sont des... Je ne sais pas si vous aviez vu que récemment, il y avait un certain nombre qui arrivaient à Paris, je ne sais pas par quelle filière, et c'était des sacrés soucis pour les travailleurs sociaux du quartier de la Goutte d'Or et autour de la gare du Nord, ce qui sont complètement ingérables, incontrôlables. C'est des petits garçons, hein, c'est des 12-14 ans, ce n'est pas des 25 ans, quoi. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui nous préoccupent et qui viennent de ces politiques extrémistes inspirées et appuyées sur des extrémismes religieux. Quand on passe aux pays orientaux, vous savez la Turquie d'Erdogan, vous savez ce qui se passe en Iran, vous savez ce qui se passe en Arabie Saoudite et au Qatar, vous savez ce qui se passe aussi en Afghanistan, où les choses n'ont pas été du tout, et dans beaucoup de ces pays, les choses n'ont pas du tout été comme elles le sont aujourd'hui. L'Iran est un pays qui avait une organisation de santé, et de santé sexuelle et reproductive extrêmement au point. Et c'est lorsque les mollahs sont arrivés que toutes les interdits sont nés, que tout ça a périclité. Alors en Europe, et c'est ça qui nous embête bien, c'est ben, la Pologne, la Hongrie, mais aussi la Roumanie, la Slovénie, la Russie et l'Espagne. Au niveau des instances internationales, ONU ou UNESCO, on retrouve allié le multiculturalisme des pays anglo-saxons, la tradition des pays arabes, la charia, hein, les pays arabes qui mettent en avance leur tradition, entre guillemets, et la volonté de la Russie d'y faire obstacle pour des raisons mystérieuses qui ne doivent pas être complètement étrangères aux questions d'argent. Et la France, qui a des positions qui sont extrêmement claires sur ces sujets, en fait, elle n'est pas assez présente sur ce terrain. Et c'est très, très, très embêtant. Elle n'est pas assez présente parce qu'elle est minée à l'intérieur par les théories de relativisme culturel qui sont portées par certains mouvements en France. Et c'est ça qui est absolument catastrophique. Je pense, moi, au nouveau mouvement pseudo-féministe, identitaire, islamiste, les mouvements essentialistes qui se marquent par leur rejet des autres formes de militantisme féministe. Et il y a aussi un consensus rampant anti-universaliste, pro-diversité culturelle, où l'on retrouve ceux qui rejettent la laïcité, ceux qui sont contre l'abolition de la prostitution et qui se disent réglementaristes, ceux qui sont contre l'abolition de la GPA et qui trouvent que dans le fond c'est pas si mal que ça, que les femmes se fassent un petit peu d'argent en louant leur ventre, et qui rejoignent ipso facto tous les grands tenants de la marchandisation du corps des femmes. Donc on a là une situation qui est une situation extrêmement compliquée, mais qui fait le lit, en fait, des extrémismes politiques. C'est là-dessus que c'est ça, leur chasse gardée.
Qui nous parlait des extrémismes religieux et politiques et qui s'inquiétait donc du rejet des féministes universalistes. Caroline Fourest dénonce elle aussi un consensus anti-universaliste au sein de l'université. Et donc elle explique qu'en août dernier, par exemple, les intervenants universalistes ont été attaqués ou déprogrammés dans une faculté. Ce fut le cas de Fatia Boujala et de Christine Ledouaré qui étaient invitées à débattre des contours d'un féminisme universaliste à Nanterre. Et donc, elle s'inquiète de l'OPA réussi des communautaristes sur la recherche féministe et ou antiraciste. Donc, il est vrai que, par exemple, les amis de Charlie ne peuvent prendre la parole sans un impressionnant et coûteux dispositif de sécurité. Geneviève Courreau aussi nous avait dit que la pièce de Charb, c'était très difficile à la faire passer. Et que les universalistes ont perdu le droit de citer à l'université, sous l'effet cumulé de menaces physiques des intégristes et du noyautage de l'enseignement. Donc elle dénonce une pensée anglo-saxonne multiculturaliste, caricaturale, qui se fait les alliés des intégristes et qui accuse de racisme toute personne ayant le malheur de défendre une vision plus laïque et universaliste. Rhys, lui aussi, dans son numéro de Charlie Hebdo commémoratif des attentats contre Charlie Hebdo, dressait le portrait d'une société française anti-lumière avec une remise en cause des valeurs sur lesquelles sont construites nos démocraties. Il dénonçait un retour insidieux du religieux dans la vie politique où toute critique des pouvoirs religieux était devenue blasphématoire. Justine Lacroix, qui est une politologue, a écrit un livre qui s'intitule « Le procès des droits de l'homme » et dans lequel elle explique que ce procès a commencé au tournant des années 1990. Alors il faut savoir que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il y a trois grands principes aux droits humains. Ils sont inaliénables, interdépendants et universels. Donc la force de ce texte, elle explique que c'est d'avoir affirmé son universalité, un universalisme qui a trait à sa conception, à ses destinataires et à son contenu. Et c'est en particulier René Cassin qui a défendu l'utilisation du terme « universel » et non « international » pour préciser que les rédacteurs de la Déclaration ne travaillaient pas pour les gouvernements, mais pour les peuples. Donc elle explique que les droits de l'homme sont une boussole de l'action politique. Mais une boussole, ça ne suffit pas. La référence aux droits de l'homme n'épuise pas la multiplicité des conflits qui traversent une société démocratique sur le niveau des redistributions, sur les relations collectives dans le monde du travail, sur l'élaboration de politiques de l'environnement. Les droits de l'homme ne peuvent pas répondre à tout. En outre, les droits n'existent que si les acteurs eux-mêmes se les approprient et les revendiquent. On n'impose donc pas des droits humains par la force, ils ne sont pas une religion, et c'est là que l'universalité n'est pas très bien comprise. Les droits humains ont été et restent une façon d'articuler une certaine forme de résistance à la domination arbitraire. C'est un langage porteur d'émancipation. L'universel, c'est quand des communautés politiques défendent des exigences comparables, mais dans un langage différent. Il y a beaucoup de façons d'exprimer l'aspiration au respect de la dignité humaine. Le langage des droits est simplement celui qui s'est imposé dans la période contemporaine pour exprimer cette exigence. Alors, elle explique deux raisons pour lesquelles le principe des droits universels a pu être dévoyé. Première raison, c'est que la Déclaration universelle des droits humains a servi d'excuse à la conduite d'actions elles-mêmes de moralité douteuse. Il arrive que certains individus et même certains gouvernements prétendent défendre la cause des droits humains alors que leurs agissements constituent des violations de ces droits. Et les démocraties occidentales ont usé et abusé d'une instrumentalisation politique des droits fondamentaux. Et c'est donc effectivement une des critiques associées aux droits humains qui a été formulée notamment par l'extrême gauche, c'est qu'ils sont l'expression d'une forme d'impérialisme occidental. Alors elle explique qu'effectivement, on ne dira jamais assez le mal causé par la deuxième guerre d'Irak et l'instrumentalisation des droits de l'homme par l'administration Bush. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu instrumentalisation que le principe lui-même est atteint. Et plutôt que de tirer à boulets rouges sur ces droits, mieux vaut rappeler leur sens réel pour éviter ces formes d'instrumentalisation. Donc un autre exemple du dévoiement de l'universalité des droits humains, ça a été la tristement célèbre prison de Guantanamo Bay dans le sillage des attaques terroristes perpétrées aux États-Unis le 11 septembre 2001. De nombreux gouvernements sont venus à limiter certaines libertés fondamentales pour faire front à la menace terroriste. Lorsque les États violent les droits fondamentaux, et ce même au nom de la sécurité, de nombreuses organisations telles qu'Amnesty International sont là pour leur rappeler leurs obligations et leur demander de prendre leurs responsabilités par rapport à leurs actions. Donc deuxième raison du dévoiement, c'est que le principe de l'universalité des droits humains a pu être dévoyé par des gouvernements ou des organisations politiques ou religieuses, car en réalité, ils ne tenaient pas vraiment à l'éducation de leurs citoyens aux droits humains qui aurait permis leur émancipation. Les droits humains sont universels et donc pour tout le monde, et beaucoup de gouvernements ont traduit ce texte international dans leurs lois nationales. Cependant, certains gouvernements, trouvant l'origine de cette Déclaration universelle des droits humains trop occidentale et au nom de leur culture ou religion, ont adopté en place des lois nationales en contradiction avec les principes relevant des droits fondamentaux. Par exemple, des lois qui érigent en infraction l'homosexualité, et portent atteinte aux droits des lesbiennes, des gays, des personnes bisexuelles et transgenres. De même, le fait de permettre la pratique des mutilations génitales féminines, cela constitue évidemment une atteinte grave aux droits des filles. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. J'ai rencontré aussi Daniela Lévy de Oser le féminisme, qui défend un féminisme universaliste, laïque et abolitionniste, et qui m'a expliqué donc les différents positionnements, les différentes divisions entre l'universalisme et les théories du relativisme. Donc je vous laisse l'écouter.
Alors, je m'appelle Daniela Lévy et je suis militante d'Oser le féminisme depuis 2011 à peu près. Militante à la fois au niveau local et national, en tant qu'administratrice, en fait. Et j'ai rejoint cette association à mon retour du Congo.
Du Congo.
J'étais partie après mes études travailler d'abord en Inde sur des projets qui visaient justement la prise en charge des femmes brûlées. Oui, c'était ma première expérience professionnelle. Et ensuite, je suis partie au Congo, et donc à l'est du Congo, où la problématique du viol est très présente. On considère que le viol est une arme de guerre. Et je suis rentrée en France, et Oser le féminisme lançait en France sa campagne « Le viol, la honte doit changer de camp ». Et c'est dans ce contexte-là, compte tenu des expériences que j'avais pu avoir à l'international, que je me suis intéressée à la problématique ici en France, et que j'ai rejoint Oser le féminisme. Oser le féminisme, qui est une association nationale, donc, qui comporte aujourd'hui une trentaine d'antennes sur le territoire national, à peu près 4000 adhérents et adhérentes. Nous sommes une association mixte qui a pour principe et pour valeur surtout le féminisme universaliste. Pour valeur également l'abolition de la prostitution. Pour valeur encore l'antiracisme. Donc ce sont vraiment les valeurs qui fondent finalement le socle de notre lutte, qui organisent notre lutte. Et donc nous luttons au travers de campagnes de sensibilisation sur des thématiques que nous choisissons chaque année. Et nous luttons également en réagissant systématiquement à l'actualité pour faire entendre notre parole, notre voix, une grille de lecture féministe des enjeux sociaux.
En ce moment, il y a pas mal de sujets d'actualité sur les violences, projet de loi, etc. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas de ça dont tu as envie de parler plus spécifiquement. Je crois que tu veux parler de l'universalisme. Donc, que tu m'expliques déjà pourquoi c'est important de parler de ça.
Oui, effectivement, c'est important pour moi d'en parler parce qu'on est finalement bien souvent attaqué à cause de cette valeur-là précisément. C'est une valeur qui divise le milieu féministe, mais pas seulement. Et il me semble que c'est une valeur qui n'est pas comprise comme elle devrait l'être, en fait. Moi, ça a vraiment été mon point d'entrée dans le féminisme. Sans universalisme, j'aurais pas pu être féministe, en fait. Alors, pourquoi ? D'abord, comme je l'ai dit précédemment, c'est après mes expériences à l'international que je me suis intéressée plus spécifiquement à la question du féminisme et à la question de la situation en France, et aussi par mes expériences individuelles, au niveau de mon histoire individuelle, puisque j'ai grandi quand même entre plusieurs pays, avec une famille et des amis encore aujourd'hui dispersés un petit peu dans le monde. Et donc avec le constat d'enjeux extrêmement similaires partout dans le monde, et avec surtout l'envie de surtout pas me couper des autres et ne surtout pas me penser comme différente parce que venant d'ailleurs, venant dans notre pays, et ne surtout pas enfermer non plus les autres dans dans les enjeux de leur lieu de naissance ou dans leur couleur de peau. Et pour moi, l'universalisme permet précisément de transcender ces différences-là. Et donc c'est par cette porte d'entrée-là et par ce biais-là, par l'envie justement de me sentir partie prenante de la communauté des femmes et de la communauté des humains, que le combat féministe s'est structuré pour moi. On est organisé, on lutte et on voit les effets de notre lutte surtout. Hein. On gagne un certain nombre de combats, on a eu des campagnes qui ont été... suivi des faits et notamment au niveau de la loi sur la prostitution, qui est une loi, enfin une mobilisation qui nous a occupés de 2012 à 2016, eh bien on a eu la joie de voir cette loi adoptée, donc c'est quand même pas rien, et aujourd'hui on se mobilise encore pour qu'elle ne soit pas abrogée. Donc ça c'est un des combats, un des succès parmi tant d'autres, mais de voir qu'on arrive à changer les choses, de voir qu'on a cette puissance là c'est très motivant, et ça montre que voilà, qu'on peut être acteur et actrice de cette société, et que si on ressent et on perçoit des injustices, eh bien, il suffit de s'organiser, il suffit de se mobiliser pour essayer de faire changer les choses et voir les choses changer.
Donc tu dis que quelquefois vous êtes attaqué parce que vous êtes universaliste, donc je voudrais savoir ce qui se passe. Depuis quand on peut être attaqué parce qu'on est universaliste?
Alors effectivement, donc il y a beaucoup de courants dans le féminisme, et c'est normal parce que, enfin, on peut imaginer que justement nous sommes différentes, donc nous avons à nous reconnaître dans des organisations différentes également. Et le féminisme, surtout, ça reste un combat politique. Donc comme tout courant politique, on peut imaginer des divisions internes et donc des oppositions dans les grilles de lecture. Et donc l'universalisme s'oppose à la... on pourrait dire au relativisme, et donc forcément nous sommes attaqués, et nous nous opposons aussi, nous ne sommes pas seulement attaqués, nous nous opposons aussi aux personnes qui ont une grille de lecture relativiste des enjeux liés aux droits des femmes. Donc ça veut dire quoi concrètement ? Bien, par exemple, sur la prostitution dont j'ai parlé précédemment, sur la prostitution, nous défendons l'abolition de la prostitution, et nous avons en face de nous donc des mouvements qui vont au contraire défendre l'idée de réglementer la prostitution. Regardez aussi les autres sujets, par exemple la construction de l'identité. Là aussi, nous avons une différence dans la grille de lecture qui est très claire et très nette. C'est-à-dire que pour nous, c'est important de dire qu'il y a effectivement des femmes et des hommes dans la société, et il y a, sur ce constat biologique, la différenciation culturelle qui vient s'incruster et s'intégrer. C'est-à-dire que nous reconnaissons la différence biologique qui fait qu'à partir du constat biologique, les violences vont s'organiser autour des enjeux de reproduction et autour des enjeux de violences sexuelles, par exemple. Le féminin et le masculin se construisent aussi sur ces enjeux biologiques. Donc les sujets sur lesquels on se divise vraiment, donc c'est la prostitution, la construction de l'identité, les enjeux de gestation pour autrui et les enjeux liés aux vêtements et donc on pourrait dire au voile. Donc ce sont vraiment les quatre sujets à partir desquels il me semble qu'on peut voir une différence de positionnement entre universaliste et relativiste. Donc la prostitution globalement, donc c'est ce que j'ai dit. Donc nous militons pour l'abolition de la prostitution en partant du principe que nous regardons comment la prostitution se distribue dans la société. Et là, on est obligé de faire le constat que ce sont majoritairement des femmes qui sont en situation de prostitution et très majoritairement des hommes qui se retrouvent à acheter des actes sexuels tarifés.
Ça paraît évident,
indéniable. Ouais.
Ça paraît évident, indéniable, effectivement. Ce sont les faits, c'est le réel. Et donc, constater cette absence de symétrie dans les rôles, ça permet aussi d'interroger le rapport de force inhérent à la prostitution. Et si rapport de force il y a, si violence il y a, dans ce cas-là, on ne peut pas soutenir la prostitution et souhaiter réglementer la prostitution si on vise justement à l'égalité et à l'abolition des violences contre les femmes. Ça, c'est un premier niveau de lecture, il y en aurait plein d'autres. Hein. C'est vraiment le premier niveau de lecture.
C'est un niveau de lecture qui est lié à l'universalisme.
Qui est lié à l'universalisme, dans le sens où on interroge. En fait, pour moi, on interroge systématiquement dans l'universalisme la dimension sociale et comment le social nous détermine. Pour moi, c'est vraiment là l'enjeu fondamental de différenciation entre relativisme et universalisme. Donc, je vais dire une phrase un peu, deux phrases un peu compliquées que je pourrais définir par la suite. Mais pour moi, c'est un petit peu comme si l'universalisme posait l'égalité comme préalable et comme idéal, quand le relativisme pose la liberté comme préalable et comme idéal. Donc, je pose vraiment les enjeux d'égalité dans l'universalisme aux enjeux de liberté dans le relativisme. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on regarde.
L'un ne devrait pas aller sans l'autre en réalité, c'est bizarre, enfin, non ?
Oui, effectivement, l'un ne devrait pas aller sans l'autre, mais c'est intéressant de penser les choses, je pense, en termes de préalable et d'idéal, en fait. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on regarde la manière dont les argumentaires sont structurés, on voit que lorsqu'on discute avec des personnes qui sont relativistes, ce qui nous est opposé systématiquement, ça va être une revendication de liberté individuelle ou de liberté d'appartenance, et en tout cas de choix individuels. Voilà.
On va nous dire,
c'est ce que nous disent, enfin, ce sont les arguments qui nous sont opposés en permanence. Dans les relativistes, il y a différents groupes. Hein, donc c'est intéressant de voir comment des groupes qui pourraient paraître antagonistes finalement se retrouvent autour d'argumentaires similaires, ou logiques similaires. Donc on nous dit, nous sommes libres, nous avons le choix, et donc la société devrait respecter nos choix individuels et nos libertés individuelles,
d'accord,
et selon ça.
D'accord. Donc libre de quoi ? C'est là où ça, coince, c'est les sujets, c'est quoi ? La prostitution,
voilà.
Libre de
donc
prostituer.
Donc on serait libre de se prostituer, libre de porter le voile, d'accord. Libre d'être mère porteuse,
d'accord.
Voilà, sur l'ensemble, libre aussi de se définir comme femme ou homme.
Voilà.
Ce sujet-là, on pourrait en trouver encore plein d'autres,
oui,
mais
voilà.
Ce sont les sujets qui nous divisent principalement. Voilà.
Ouais.
Donc, on serait libre, on aurait le choix. Et pour moi, cet enjeu-là, et j'aimerais bien en fait, j'aimerais bien qu'on puisse se considérer comme libre et qu'il suffirait de dire je suis libre, donc je le suis. Mais c'est là, je pense, où il y a vraiment une différence de positionnement. Et donc, on voit bien que dans cette revendication de liberté individuelle, la notion d'égalité qui relierait les individus n'est pas mise au premier plan. Alors que dans l'universalisme, il me semble que c'est l'égalité qui est mise au premier plan, avant la liberté. L'égalité pour pouvoir se dire, nous nous reconnaissons d'abord en tant qu'humains, et donc dans la communauté des humains, et à ce titre, nous considérons que nous sommes égales et égaux, c'est le préalable. Sur cette égalité... Voilà, mais sur ce constat d'égalité préalable vient ensuite se construire des inégalités donc culturelles. Donc on combat le culturel, on combat les inégalités, les assignations et les injonctions sociales qui créent le féminin et le masculin et donc qui créent ensuite les conditions de l'organisation de l'inégalité. L'inégalité ne va pas de soi, c'est-à-dire qu'à la base nous avons les mêmes nous devrions avoir les mêmes opportunités et la société par l'éducation et par tous les biais. Tous les moyens d'éducation, donc pas seulement la famille, hein, donc je parle vraiment de la société dans son ensemble, nous transmet que nous sommes censés avoir des places différenciées en tant que femmes et hommes. Et c'est précisément ce contre quoi nous luttons. Hein, donc ce sont les stéréotypes et nous luttons contre ces stéréotypes. Toujours dans cette revendication de liberté individuelle et de choix individuel, on va nous opposer un discours qui consiste à dire il faut écouter la parole des personnes concernées, seule la parole des personnes concernées est légitime. Donc c'est intéressant en soi et on aurait envie de dire oui bien sûr seule la parole des personnes concernées est légitime parce qu'elles sont les mieux placées pour connaître leur situation et donc c'est elles qu'il faut mettre en avant et il faut pouvoir mettre en avant des personnes qu'on n'entend pas suffisamment d'habitude, il faut les mettre en avant.
Mais ça c'est pas contradictoire avec l'universalisme,
alors,
il me semble.
Oui et non, c'est-à-dire que Justement, c'est ce que je disais, c'est intéressant, bien sûr, et ça se justifie, et ça s'entend, et ça semble cohérent. Maintenant, pour pouvoir penser la dynamique individuelle et collective, ça peut s'interroger aussi. Et donc là, il me semble qu'on pourrait voir plusieurs problématiques sous-jacentes à l'idée de mettre au premier plan la parole des personnes concernées, et non seulement la mettre au premier plan, mais la considérer comme seule légitime. Est-elle véritablement seule légitime ? Il me semble que dans l'universalisme, on dit précisément que nous sommes toutes concernées. Et dire « nous sommes toutes concernées », ça ne dit pas qu'on ne va pas s'intéresser à chacune dans ce « tout ». Et c'est précisément le principe de la sororité que de se sentir toutes concernées ensemble. Ensemble et chacune, les deux. Ça, c'est le premier niveau de réponse. Deuxième niveau de réponse, c'est assez intéressant dans l'instrumentalisation politique des argumentaires de voir comment certaines personnes concernées sont plus entendues que d'autres. Par exemple, sur l'enjeu de la prostitution, sur le débat sur la prostitution, c'était intéressant de voir comment nos adversaires, les personnes qui militaient pour la réglementation de la prostitution, nous accusaient de ne pas écouter la parole des personnes concernées et mettaient en avant la parole de certaines personnes concernées, celles qui étaient en faveur de la réglementation, alors qu'il y avait et qu'il y a encore des personnes concernées qui militent pour l'abolition. Je peux parler par exemple de Rosanne Hischer, qui est extrêmement mobilisée, qui a été prostituée pendant des années et qui est extrêmement mobilisée en faveur de l'abolition de la prostitution. On peut parler aussi d'Andrea Dworkin, qui a vraiment théorisé, qui a été prostituée, qui a théorisé sur l'abolition de la prostitution et sur les violences dans le cadre du système prostitueur. Donc, comment finalement le fait de mettre en avant comme ça la parole des personnes concernées peut correspondre aussi, lorsqu'il s'agit de militer, à une instrumentalisation où on entend qu'une certaine partie des personnes concernées. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, est-ce qu'il suffit d'appartenir à un groupe pour en défendre les intérêts ? Est-ce qu'il suffit d'être femme pour être féministe ? On voit bien que toutes les femmes ne sont pas féministes. On voit bien également que toutes les femmes ne sont pas pour le droit à l'avortement, par exemple, aujourd'hui encore. Ni au moment de l'adoption de la loi, ni aujourd'hui, il y avait consensus absolu entre toutes les femmes. Donc ne fallait-il pas légiférer ? Ça, c'est vraiment c'est le troisième point, finalement. Ne fallait-il pas légiférer ? À quel niveau de consensus dans le groupe on accepte d'agir, de dépasser la parole individuelle et d'agir sur le collectif ? Le droit de vote pour les femmes. Toutes les femmes n'étaient pas en faveur du droit de vote. Il ne fallait pas faire passer la loi. Le droit à l'avortement, je l'ai déjà dit. Donc c'est intéressant de voir comment les combats d'hier sont les évidences d'aujourd'hui, quelque part. Mais à l'origine, il n'y avait pas de consensus. Et il n'y avait pas de consensus parmi les personnes concernées non plus. Et ensuite, résumer les choses à un « je suis », donc « je sais », la simple appartenance au groupe qui ferait qu'on saurait de fait ce qu'il nous faudrait. Donc c'est de nouveau une sorte de prima du conscient sur les déterminismes. Ça resitue les enjeux du côté de l'individu, du côté d'une sorte d'essentialisation du débat, et on n'est plus du tout du côté de la culture, du côté de la connaissance, du côté de la formation. Pour autant, moi, si une victime de violence sexuelle avait à être reçue par une personne pour être accompagnée, pour être accueillie, je préférerais qu'elle soit reçue par une personne formée que parce qu'une femme, parce qu'elle est femme. Vous voyez ? Précisément parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'appartenir au groupe pour en défendre les intérêts. Il ne suffit pas d'être femme pour être formée sur les violences sexuelles. On pourrait imaginer effectivement qu'il y ait un vécu commun, mais est-ce que cela suffit ? Oui, alors pour moi, l'universalisme, c'est vraiment un point qui est essentiel et qui est fondamental, en fait, dans la lutte. Parce que c'est précisément la valeur à partir de laquelle on va pouvoir organiser la lutte et lui donner une orientation dans le sens de la possibilité de penser l'intérêt général. Hein. Que sans ça, si on avait à suivre les positions de celles qui s'opposent à nous, on serait davantage dans une fragmentation de la société et dans une revendication d'individualisme ou d'appartenance culturelle. Donc je parle aussi bien de relativisme individuel que de relativisme culturel et de la rencontre entre les deux. Et donc, finalement, dans quelque chose qui pourrait revenir à une description très libérale des enjeux. Et qui dit conséquences libérales et perceptions libérales dit aussi, il me semble, un État beaucoup moins fort et donc une structuration du social beaucoup moins forte. Et comment penser la possibilité de l'égalité si ce n'est par l'organisation de l'égalité ? Penser l'égalité comme préalable et comme idéal. C'est la possibilité de se reconnaître comme relié au reste de l'humanité et non pas exclu du reste de l'humanité. Donc, et là, c'est très étonnant parce que on nous dit souvent que nous sommes, en tant que féministes universalistes, excluantes. Comme si être en faveur de l'abolition de la prostitution revenait à exclure les personnes prostituées. Comme si questionner le voile revenait à exclure les personnes voilées. Mais pour moi, c'est précisément l'inverse, en fait. C'est précisément l'inverse. Et questionner des sujets, ce n'est pas exclure des personnes. Par exemple, si j'avais à faire une comparaison, dire que je lutte contre les violences conjugales ne revient pas à dire que j'exclus les femmes victimes de violences conjugales. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Et c'est vraiment le même raisonnement hein, qu'on pourrait adopter sur les autres enjeux. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir comment le féminisme qui se dit inclusif revient, pour moi, à exclure précisément et à opposer et à créer des hiérarchies entre les différents groupes et des différents niveaux de légitimité dans la parole des différents groupes.
Back up all my cares and woes. Here I go, swinging low. Bye, bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, so is he. Bye, bye, blackbird.
Je vais terminer l'émission par une bonne nouvelle, le succès pour les militantes abolitionnistes et universalistes. Le mouvement d'UNI, La Clé et Oser le féminisme étaient parties intervenantes dans la procédure et ils se réjouissent de la décision du Conseil constitutionnel qui a rejeté la demande d'abrogation de la pénalisation des clients prostituteurs le 1er février 2019, ce qui confirme définitivement le choix qu'a fait la France en avril 2016 d'une législation abolitionniste dépénalisant les victimes du système prostitutionnel et interdisant l'achat d'actes sexuels. En effet, dans leur décision rendue le 1er février, les sages rejettent les arguments selon lesquels la prostitution relèverait de la liberté d'entreprendre, la reconnaissant ainsi une nouvelle fois pour ce qu'elle est, une violence faite à l'encontre des personnes qui la subissent. Les membres du Conseil ont reconnu que le principe de dignité est objectif et non subjectif. Renoncer à ses droits fondamentaux n'est pas une liberté, ils sont inaliénables et universels. En mettant ainsi un coup d'arrêt à la contestation d'une loi progressiste par ses adversaires de toujours, promoteurs d'un modèle de société où au lieu d'alternatives décentes, il est proposé aux plus précaires, aux plus vulnérables, de se transformer en produit de consommation, de viol tarifé pour ceux qui ont le pouvoir de l'argent, le Conseil constitutionnel positionne notre pays du côté de l'égalité femmes-hommes. C'est ce qu'a rappelé Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme. L'objectif de la loi est de protéger les personnes qui ont besoin de l'être, de sanctionner tous ceux qui les exploitent, mais aussi de transformer la société en profondeur vers l'égalité entre les femmes et les hommes en refusant les violences contre les femmes, en affirmant que la liberté sexuelle ne peut exister sans désir réciproque. C'est ce qu'a expliqué Christine Bleck, présidente du mouvement du NI. Désormais, ni la désinformation ni les mensonges sur les effets de la loi ne doivent plus venir ralentir son application pleine et entière. En effet, la violence, contrairement à ce que disaient certains, ne s'est pas accrue avec la loi. La prostitution n'est pas devenue plus clandestine et au contraire, de nombreuses personnes ont pu porter plainte contre le réseau proxénète qui les exploite et être entendues, alors que cela n'aurait jamais été possible auparavant. En près de 3 ans, plus de 3000 clients ont été interpellés, plus de 130 personnes ont bénéficié d'un parcours de sortie. Cela n'est qu'un début. En effet, les personnes qui empruntent des parcours de sortie ont un meilleur accès aux droits, à la réinsertion et au logement et reprennent confiance en elles. S'il a fallu du temps pour mettre en place les dispositions de la loi, le rythme de son application s'est accéléré ces derniers mois. Les personnes prostituées sont en effet de plus en plus nombreuses à demander les parcours de sortie de prostitution. Nous encourageons donc les associations communautaires qui ont jusque-là refusé de prendre part à son application à cesser d'imputer à la loi ce qui relève de la violence du système prostitutionnel et à abandonner une posture qui empêche les personnes prostituées d'avoir accès à leurs droits fondamentaux et aux aides auxquelles elles ont droit. Selon un récent sondage Ipsos pour Cap International, 78% des Françaises sont favorables à la loi et 80% estiment que la prostitution est une violence. Après 5 ans de débats législatifs qui ont mené à l'adoption de la loi par le Parlement, après la décision du Conseil constitutionnel qui entérine cette loi définitivement, après l'engagement du gouvernement à la soutenir, la voie est désormais libre pour son application pleine et entière. Alors j'aurais voulu terminer sur cette bonne nouvelle. Malheureusement, le même jour où j'ai pu rencontrer Geneviève Courault lors de son intervention sur les extrémismes religieux et politiques, donc le 5 février, eh bien le sénateur du Rassemblement national Stéphane Ravier et le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin ont encore fait preuve d'un sexisme virulent et patent. Il y a eu une réaction de Oser le féminisme 13 et Femmes solidaires par un communiqué de presse. Donc, au cours du dernier conseil municipal, le groupe de Stéphane Ravier perturbait l'intervention de Lydia Frenzel. Monsieur Ravier, on se verra dans le 13-14, a réagi l'élu Europe Écologie des Verts. Réponse de Stéphane Ravier, même hôtel, même heure. Jean-Claude Gaudin, complice, ajoute « En tout cas, ce n'était pas dans mon bureau. » Puis, n'exagérons rien, quand on lui demande de prononcer un rappel au règlement. Nous tenons à signifier notre soutien soror à Lydia Frenzel. C'est en tant que femme qu'elle a été victime d'injures sexistes et à travers elle, nous sommes toutes injuriées. Nous ne pouvons tolérer que de tels rappels à l'ordre sexué soient formulés et qui ne suscite pas de condamnation immédiate. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a récemment rappelé la réalité du sexisme. En 2017, 1,2 million de femmes ont fait l'objet d'une injure sexiste, soit près d'une femme sur 20. Dans 64% des cas, l'insulte contient les mots « salope »,« pute » ou « connasse ». Face à ces chiffres que nos représentants ne peuvent ignorer, comment supporter que leurs propos viennent s'ajouter aux terribles statistiques quand nous aurions au contraire attendu qu'ils se mobilisent et prennent des mesures à la hauteur des enjeux? Crier au dérapage est inapproprié quand le sexisme en politique est récurrent. Stéphane Ravier avait d'ailleurs par le passé affirmé faire une boutade en déclarant « Le viol, c'est un rapport amoureux qu'une partie des deux souhaite, la deuxième pourrait faire un effort ». Cela n'est pas de l'humour, et au-delà du rappel au règlement, l'injure sexiste est passible d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Faut-il le rappeler à Stéphane Ravier et Jean-Claude Gaudin? Les injures sexistes sont des violences du quotidien, et elles s'inscrivent dans le continuum des violences patriarcales et masculines contre les femmes. Ce sont les mêmes enjeux et les mêmes mécanismes qui produisent les blagues sexistes, le harcèlement de rue, les violences conjugales, les viols et les féminicides. Le même sentiment de supériorité des hommes envers les femmes, la même tentative de contrôle de nos corps, notamment par notre sexualisation permanente. Parce qu'il ne faut rien laisser passer, parce qu'une petite phrase sexiste n'est anodine, nous attendons... Parce qu'il ne faut rien laisser passer, parce qu'aucune petite phrase sexiste n'est anodine, nous attendons l'exemplarité de ceux qui sont censés nous représenter. Lydia Frenzel a porté plainte. Elle est soutenue par la CGT et par donc les associations féministes. Donc, en attendant des nouvelles qui, je l'espère, seront positives, je vous dis à dans 15 jours. Merci de votre écoute.